Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Isabelle avec vous. On va passer la matinée ensemble puis on a un beau programme pour vous. On a vraiment beaucoup d'invités, tous plus intéressants les uns que les autres. En deuxième heure, on va parler de vos jeunes. Je vais vous demander s'ils sont toujours motivés à étudier. C'est difficile pour un jeune de suivre en ce moment son cursus scolaire pour toutes sortes de raisons dont on a beaucoup discuté au cours des dernières semaines, pour pas dire des derniers mois. Et il y a beaucoup de parents qui commencent à être un peu tannés de jouer aux profs parce qu'il y en a beaucoup à qui on leur a demandé d'occuper une partie de la tâche d'enseignement. Donc, on va parler de ça en deuxième heure d'émission parce que là, il y a un sondage qui vient de sortir ce matin qui a été fait auprès d'environ 1000 jeunes du secondaire, du cégep, l'université, des jeunes qui étudient aussi, des jeunes adultes là, qui étudient à l'éducation aux adultes. Puis, sincèrement, le niveau de motivation est vraiment dans le dallo. Ça va pas bien, pas beaucoup de motivation, puis on les comprend. Puis sincèrement, je voulais vous reparler de ça depuis un petit moment parce que beaucoup de parents m'écrivent pour me dire qu'ils sont plus capables. Alors, vous aurez l'occasion amplement en deuxième heure de vous exprimer là-dessus. Évidemment, notre premier sujet va toucher cette deuxième vague. Donc, on commence à la voir poindre, peut-être plus tôt que prévu, si, nous disent les experts en santé publique, si on ne respecte pas les règles sanitaires de base de déconfinement. Quand on parle de ces règles-là, on pense par exemple au port du masque, puis vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est encore peu de gens qui sont convaincus que le port de masque ou de couvre-visage est utile. Vous n'avez qu'à prendre le transport en commun, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le transport en commun. Il y a très peu de gens qui portent le masque. Et ça, c'est assez incroyable. Et ce qu'on nous a dit hier, là, selon le dernier modèle de l'Institut national de santé publique du Québec, ce qu'on nous a dit, c'est que si les Québécois ne respectent pas ces mesures de distanciation physique et de port de masque, distanciation, c'est 2 mètres, là, ça n'a pas diminué depuis, il va y avoir une deuxième vague, peut-être même dès juin. Juin, là, c'est lundi. C'est pas des bonnes nouvelles. Et il y a évidemment plein d'éléments aussi sur lesquels j'aimerais vous entendre ce matin, entre autres cette déclaration de la docteure Mylène Drouin, qu'on a eu l'occasion de recevoir à l'émission, qui est la directrice de la santé publique de Montréal, qui se plaignait du fait, et on en avait déjà parlé avec elle il y a un mois, du fait que cette crise-là, cette pandémie, c'est quand même à Montréal qui est l'épicentre de la pandémie au Canada, que cette crise-là ait été gérée de loin, de Québec. C'est bien dommage qu'elle ne puisse pas nous parler ce matin, la docteure Drouin, parce que sincèrement, j'aurais aimé lui dire que j'étais d'accord avec elle, qu'elle a raison de dire que la crise à Montréal a été gérée de trop loin, que ça aurait dû être géré, cette crise-là, d'ici même, puisque le problème est ici. Mais malheureusement, écoutez, sincèrement, là, c'est fascinant, on ne l'entendra pas aujourd'hui. Nous, on a essayé de la voir en entrevue et on nous dit qu'elle n'est pas disponible. Vraiment dommage. C'est exactement comme dans la série Épidémie à TVA. L'avez-vous vu? Le personnage de Julie Perrault, qui est comme la directrice, qui est comme la Mylène Drouin d'Épidémie là, à la télé, qui est pognée avec ses relationnistes, ses PR, avec les politiques, puis qui en a plein les bras. Personne ne l'écoute. Puis finalement, le problème est entier justement à cause de ça. C'est un peu dommage. En attendant, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes inquiet par cette deuxième vague? Est-ce que vous la craignez? En avez-vous peur? Et si vous ne croyez pas que c'est un vrai risque, allons tout de suite dans un endroit où on a pensé déconfiner, où on a même rouvert les commerces. Et ça n'a pas été long qu'il a fallu, on pensait vraiment passer de la zone rouge à orange à jaune, hein? C'est ce qu'on appelle le déconfinement graduel. Les commerces avaient rouvert, ça se passe au Nouveau-Brunswick. Et on va parler tout de suite à un commerçant, il est barbier à Campbellton depuis 53 ans, c'est M. Armand Girard. Son salon a été bien occupé pendant les premiers jours, mais ça n'a pas duré longtemps. Armand Girard, merci de nous parler.
Bienvenue.
Comment ça se passe à Campbellton aujourd'hui?
Ça se passe, c'est tranquille en ville, il y a quasiment plus de trafic.
Ben oui. Racontez-nous, M. Girard, vous avez donc eu droit à la réouverture de votre commerce, comme tous les commerçants au Nouveau-Brunswick. On a donc assisté au déconfinement, un peu ce qu'on vit, nous, au Québec, maintenant. Comment ça s'est passé, ce déconfinement?
Nous autres, on a commencé, on a eu Pour commencer, c'était vendredi passé, on avait les barbiers et les coiffeuses, puis tout, on avait le droit d'ouvrir. On a ouvert, c'était à 10h vendredi matin, puis là, ils nous ont fermé mercredi à 5h.
Ils vous ont fermé de nouveau. Donc, ils
nous
vous ont...
fermé. Ils ont venu nous avertir à 4 heures d'après-midi qu'à 5 heures, vos portes vous étaient fermées puis barrées.
Et pour quelle raison?
C'est parce qu'il y a eu un gros cas, un docteur d'ici de Carrollton qui était à Québec, puis il avait la maladie, puis il est descendu ici, puis il a pas été se faire soigner à rien, il a commencé à travailler, puis là on est rendu qu'on a 6 personnes à Carrollton, à l'hôpital, qui ont pogné le virus.
Et là, vous pensez que c'est à cause de quelqu'un qui s'est rendu au Québec? Avez-vous l'impression que c'est le Québec?
C'est un docteur. C'est officiel, ils l'ont envoyé, il a fini. Il a eu ce, ils l'ont mis dehors jusqu'à temps que c'est réglé.
Mmh. Avez-vous l'impression
puis, que... Il a affecté un autre docteur à Carrollton. Là, notre hôpital est fermé, nous autres. Là.
L'hôpital est fermé?
Notre hôpital est fermé. Tout le monde qui travaillait comme dans les soins pour faire les opérations, il travaillait là. Parce qu'il a travaillé dans l'externe. Puis c'est là que... Il n'y a pas ni passé comme 200 personnes qui ont passé à l'hôpital quand ils étaient sous ses soins.
Ah oui.
Puis qui a rentré, puis là, ils sont tous en train de faire des contacts avec toutes les personnes qui rentrent à l'hôpital.
Donc, c'est un médecin qui s'est rendu au Québec puis qui ne s'est pas isolé à son retour au Nouveau-Brunswick.
Quand il est arrivé, il ne s'est pas isolé pas en tout.
Oui. Avez-vous l'impression d'avoir été infecté par du monde du Québec? En fait, des gens qui... Avez-vous l'impression d'avoir été infecté par un virus qui était au Québec?
Non, je pense qu'il avait monté, peut-être, parce que... Il y a assez d'histoires, là. Mm. Moi, ils m'ont dit qu'ils avaient monté voir sa fille qui était malade à Québec, puis ça n'est mieux avec le virus. Il a commencé à travailler. Aussitôt qu'il est arrivé, il a été travaillé le lendemain matin.
Ouais, ça prouve que le risque.
Là, il avait fait le Tim Hortons en ville, il a été chercher un café, il a été chercher du gaz juste en face de moi. Il a été sur Jean Coutu, je sais pas où ce qu'il a été chercher, mais il était là aussi. Il y a beaucoup de places à acheter, ils sont tous en train de faire comme là, ils ont ouvert le centre civique, là. Puis là, aujourd'hui, puis demain, puis il a donné quelqu'un qui va aller se faire passer des tests, là, ils peuvent aller.
Il n'était pas allé se faire couper les cheveux chez vous, hein, M. Girard?
Non, il n'avait pas parce que je le connais bien à part ça, c'est ça qui est le problème.
Ah ouais. Comment vous voyez ce reconfinement partiel, finalement? Parce que là, vous devez fermer à nouveau votre commerce après avoir eu l'espoir que la vie reprenne.
Hey, ça, on a attendu, moi, c'était quoi, 10 semaines qu'on était fermés. Parce qu'on rouvre, puis on a fait pas même une semaine. Puis c'était tout à cause d'un docteur, là. Hey, ça, c'est pas acceptable, là.
Un docteur qui s'est infecté puis qui en a contagié. Là, vous...
Un docteur, je pense qu'il vient... Il vient d'un autre pays, Saint-Noir.
Oui, mais peu importe. Là, l'important, c'est que le risque de contagion est réel, c'est ça. Vous auriez un message au monde, peut-être, du Québec ou de Montréal, ou quand même, on le dit beaucoup, vous devez entendre parler de ça, vous aussi, au Nouveau-Brunswick, le fait qu'à Montréal, la situation était extrêmement sérieuse.
Moi, je regarde ça chaque jour sur la télévision, même si elle est dessus déjà, là, ça, je pas regardé.
Fait que, qu'est-ce que vous auriez comme message à dire aux Québécois qui pensent que la deuxième vague, là, c'est une invention de l'esprit?
Prépare parce qu'elle va être solide et elle va durer longtemps. Vraiment, là. Nous autres, là, moi, je m'attends pour un autre mois pour sûr que ça va être formé ici. Parce que juste le depuis qu'il est arrivé, là ben, dans les soins intensifs, là, il y en a 6 qui ont dit tout à l'heure sur le poste de radio.
Mm-hmm, mm-hmm.
Puis il va y en avoir plusieurs d'autres parce qu'il y a il les passe, puis il faut tout qu'appelle le monde.
Oui, évidemment, avoir su ça, là, vous auriez préféré qu'on ne rouvre pas tout de suite, hein?
Oh, exactement. On était aussi bien resté formé.
Mm.
Oui. Mm.
Mais je vous remercie.
Ça marchait, le monde attendait dehors, là, tu sais. J'avais tout préparé, mais fait faire des bancs pour mettre dehors pour le monde s'assire, en pour attendre, puis tout, tu sais. Je m'ai grillé de toutes les purées, j'avais même fait, j'ai fait beaucoup d'ouvrages, puis faire sûr que j'avais 2 chaises dans mon salon, pour le monde, pour que le reste, pour qu'il attendait dehors, puis...
Vous étiez prêt, là, c'est ça que vous me dites,
moi,
monsieur?
Moi, j'étais prêt.
Ouais.
Ça faisait une semaine que je m'avais tout préparé, parce que je savais que ça s'amenait, là.
Mm.
Oh non.
Bien décourageant tout ça. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Armand Girard.
Oh, il est bienvenu.
Merci. On salue tous les gens du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent. On a des auditeurs là-bas. Ça fait plaisir de pouvoir vous parler ce matin. Bon, alors voyez là, c'est ça qu'il nous dit. Préparez-vous là parce que lui, il aurait préféré rester fermé, M. Girard, plutôt que travailler pour rien puis se faire refermer. Quand il dit ça n'a pas duré une semaine, ça a duré 5 jours. Ils l'ont fermé mercredi, rouvré. Il a rouvert il y a une semaine, vendredi dernier, à même heure à peu près, puis on l'a fermé mercredi. Imaginez, 5 jours plus tard, dans les Maritimes, c'est le cas de le dire, on n'a pas envie d'avoir le même genre de situation ici. Est-ce que c'est une inquiétude réelle pour vous? On va aller à la pause tout de suite. Après, je vais parler avec une épidémiologiste qu'on connaît bien, qui travaille à la clinique du quartier latin, la docteure Nima Machouf, qui va nous dire comment elle voit ça, elle, cette potentielle deuxième vague. Vos commentaires, bien sûr, au 514-790-9850 de l'extérieur. Vous faites un peu partout au Québec, le 1-866-790-9850. Je pose la question ce matin un peu à tout le monde. Avez-vous peur d'une deuxième vague? Pour nous joindre, vous faites le 514-790-9850 dans la grande région de Montréal, qui est bien sûr l'épicentre canadien de cette épidémie de coronavirus. De l'extérieur, de la grande région, un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. La docteure Nima Machouf est épidémiologiste. Elle travaille à la clinique du quartier latin. Bonjour, docteur Machouf.
Bonjour Isabelle.
Vous avez eu l'occasion d'entendre Armand Girard, barbier de son état, qui vit à Campbellton depuis 53 ans. Donc, il a pu être déconfiné, comme tous les commerces au Nouveau-Brunswick, vendredi dernier. Et 5 jours plus tard, reconfinement, on ferme à nouveau parce qu'il y a donc contagion. L'hôpital même est fermé. Bref, ce qu'il nous dit, M. Girard, c'est « Attention, Montréal, ça va vous frapper ». Êtes-vous d'accord que si on déconfine trop vite, les risques d'une deuxième vague plus tôt que prévu sont vraiment réels?
Ah oui, et c'était très triste d'entendre, en fait c'était décourageant d'entendre le monsieur parler, parce que surtout au Nouveau-Brunswick, ils avaient été préservés jusque-là, et maintenant, ben oui, ils doivent retourner en arrière. Et c'est surtout pas ce qu'on veut à Montréal, et ni ailleurs dans le pays non plus.
Oui. On nous a dit hier, bon, selon nos modèles, puis on va parler là tout à l'heure avec quelqu'un de l'Institut national de santé publique du Québec là, pour se faire expliquer un peu la modélisation de tout ça. Mais de ce qu'on en sait, ce qui semble sortir, c'est que si les gens n'adhèrent pas en grand nombre à toutes ces mesures, distanciation physique, port de masque, respect du fameux 10-3-2, c'est-à-dire 10 personnes, 3 familles, 2 mètres, c'est sûr qu'on va se retrouver plongé face à une situation qui serait peut-être l'équivalent du pic du mois d'avril.
Oui. Et n'oubliez pas les critères. Il faut toujours qu'on revienne pourquoi, quand on fait le déconfinement, qu'est-ce qu'on doit respecter et pourquoi on se permet de le faire à ce moment-ci. C'est que selon les critères, si on se réfère aux critères de l'OMS, là, les 6 critères de l'OMS pour aller vers le déconfinement, premièrement, il faut que l'épidémie soit sous contrôle. Est-ce qu'elle est sous contrôle à Montréal? Ça, c'est une grosse question.
Oh mon Dieu, j'avais peur que vous me posiez la question à moi. J'aurais tendance à dire non, mais bon, c'est la santé publique qui doit nous le dire.
Oui.
Vous en pensez quoi, Dr Machou?
Moi, je pense qu'on a atteint le pic, on a dépassé le pic, mais on l'a dépassé, ça fait pas longtemps. Donc, si on regarde les pays qui sont allés vers le déconfinement, les pays qui ont réussi leur déconfinement, ils ont tous fait leur déconfinement 30, 40, 45 jours après l'atteinte du pic de leur épidémie. Alors, nous, le pic, j'ai les chiffres qu'on présente au point de presse à 1h de l'après-midi à chaque jour. J'ai pas d'autres chiffres. Mais si je me base sur ces chiffres-là, à mon avis, le pic de notre épidémie, on l'a atteint aux alentours du 10 mai, du 8 à 10 mai. Donc ça veut dire si on se fie sur l'expérience des autres pays, des pays européens qui sont allés vers le déconfinement, 1 mois, 40 jours après, c'est après la Saint-Jean. C'est à peu près après la Saint-Jean ou aux alentours de la Saint-Jean qu'on est prêt au déconfinement. Mmh. Alors, à mon avis, c'est un peu précipité. Deuxièmement, il faut que nos structures soient, le système de santé soit en contrôle. Il faut que notre capacité hospitalière soit correcte pour pouvoir absorber les nouveaux cas. Parce que quand on va aller vers le déconfinement, veut pas, il y aura plus de contact entre les personnes. Donc, veut pas, il y aura plus de transmission. Donc, plus de cas. Est-ce que notre système de santé est capable de les absorber ou pas? Pour l'instant, ils disent qu'on est capable. Donc, ça, c'est bien. Notre capacité de tester doit augmenter beaucoup. Elle a beaucoup augmenté. On teste 3 fois plus qu'avant. Ça, c'est très bien. Retraçage des contacts, on le fait beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, c'est la santé publique était au papier et crayon pour retracer les contacts. Puis, avait l'information sur un test positif, des fois 5-6 jours après le résultat du test, ce qui était absolument pas optimal. Maintenant, ils ont l'air être capables de retracer les contacts en dedans de 48 heures. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est pas optimal, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, à ce niveau-là, ça va. Il faut qu'on soit capable de contrôler l'importation de nouveaux cas. Il faut pas que les cas arrivent de l'extérieur, exactement comme le cas du monsieur au Nouveau-Brunswick qui expliquait un cas est arrivé de l'extérieur de la province. Quand un cas arrive de l'extérieur de la province, il faut lui demander le confinement 14 jours parce que 50% des gens peuvent avoir l'infection sans le savoir. On n'a pas de symptômes, on pense qu'on n'est pas dangereux. Et pourtant, on va quelque part et on risque de transmettre l'infection et de causer une micro-épidémie quelque part. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Il faut vraiment empêcher ça. Et aussi les mesures de prévention, comme vous avez mentionné, la distance, le masque, le lavage des mains, tout ça sont des mesures extrêmement importantes et il faut les respecter.
Mais là, si je vous suis bien, Dr Machaud, ce que vous dites, c'est que... Chalet, camping, tout ça, c'était pas une bonne idée finalement. Là. Puis aller visiter une autre région, partir en vacances en Gaspésie ou ailleurs.
Oui. On peut le faire. L'extérieur et l'intérieur est différent. À l'extérieur, dans les zones à air ouvert, on a beaucoup moins de risques de transmettre. Parce qu'on peut garder notre distance. Le virus est trop dilué. S'il est là, il est trop dilué. Il faut penser à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas le transmettre si on est infecté. Il faut qu'on suppose qu'on est tous infectés. Il faut qu'on suppose qu'on est infecté. Donc, moi, je ne veux pas vous infecter. Donc, on va éviter le partage d'objets, on va éviter le partage de tout, en fait. En espace ouvert, ça marche. En espace fermé, c'est beaucoup moins possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent aux autorités sanitaires d'imposer le masque, de rendre le masque obligatoire dans des zones closes parce qu'on partage la même air, puis on veut éviter, puis forcément avec des confinements, il va y avoir plus de contacts et on veut pas que les gens transmettre l'infection.
Comment ça se fait qu'on l'a pas imposé, Dr Machouf, comment ça se fait qu'on l'a pas imposé dans le transport en commun encore?
Je ne sais pas. À mon avis, il faudrait l'imposer parce que c'est pas une mesure qui est extrêmement difficile. C'est déplaisant le porter, je l'admets, c'est déplaisant le porter. Mais si on n'impose pas de mesures strictes, personne ne va le porter parce que c'est pas plaisant de porter un masque. Mais si on sait que le port du masque va, puis maintenant, il y a de plus en plus d'études aussi qui nous le montrent. Avant, il y avait moins d'études. Il y avait une logique, mais les études étaient moins présentes. Mais maintenant, on a des études qui montrent que le masque est efficace. Alors, à mon avis, il devrait l'imposer. Plus qu'on impose des mesures strictes, ça va être dur, mais ça va être dur pour moins longtemps.
Ouais. Vous dites
si on n'impose pas de mesures, ça va traîner, puis on va traîner ça. Et avec les projections de la santé publique, on est rendu en août. Les écoles, en septembre, ça va se passer comment? C'est grave, ça. On va continuer le confinement pendant combien de temps?
Vous, la vague, vous croyez, la deuxième, là, vous croyez que ça va donc...
Oui, parce que Montréal, si vous regardez la courbe au Québec, 70% de l'épidémie au Québec était à Montréal, mais si vous regardez juste les chiffres, vous allez voir qu'on a comme, normalement dans les autres pays, on a une cloche. La courbe est comme une cloche. Ça monte. Au début, il y a très, très peu de gens infectés. Après ça, tout d'un coup, de manière très rapide, beaucoup de gens sont infectés. On atteint un pic et après ça, la courbe redescend. De moins en moins de personnes sont infectées. Chez nous, au Québec, on a monté rapidement puis on est resté sur un long plateau. Presque 2 mois, Le plateau est demeuré presque 2 mois. Ça veut dire que nos mesures n'étaient pas assez strictes et on continuait à transmettre l'infection.
Exactement.
Donc, il faut être un peu plus strict.
Voilà. Mais j'ai une question pour vous de Michel. Il dit, selon Dr Machouf, donc que devons-nous faire si les Montréalais délinquants qui se promènent partout au Québec infectent les résidents des autres régions? Seront-ils mis en quarantaine durant 14 jours?
À mon avis, il faudrait qu'on respecte ça. Si les gens veulent aller en région ou s'ils veulent se déplacer, disons, il faut qu'on se dise qu'on est potentiellement infecté, puis on ne veut surtout pas transmettre l'infection si on est positif. Alors, si les gens veulent aller en camping, correct, qu'ils aillent en camping, mais qu'ils réduisent leur contact au strict minimum. Ça veut dire amener tout le stock. Il ne faut pas qu'on aille se promener dans les magasins en région. Il ne faut pas... puis même si on amène tout son stock, si c'est pour des courtes durées, c'est possible. Si c'est pour des plus longues durées, en amener assez pour ne pas être obligé de sortir les 2 premières semaines.
Ouais,
profiter de la nature.
Thomas Machouf, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas faire ça.
Alors, s'ils ne le font pas, puis ils ont besoin de rentrer acheter quelque chose dans un magasin, qui portent le masque, si dans tous les magasins, il y a des mesures pour se laver les mains et les gens sont obligés de porter le masque pour rentrer, ben on réduit énormément le risque de transmission.
Écoutez, je racontais aux auditeurs l'autre jour mon expérience dans un couche-tard. J'évite d'aller dans des magasins, mais là, c'était un poste d'essence, donc je rentre. On va dans le couche-tard. À la caisse, il n'y avait aucune règle de distanciation clairement établie. L'employé ne portait pas de masque. Les clients qui sont rentrés et sortis, au moins une douzaine le temps que j'étais là, aucun portait le masque. J'étais avec ma fille. On était les deux seuls. On avait l'air d'extraterrestres avec nos masques. Tout le monde nous regardait. Oui. Voyons de quoi vous avez l'air. Comprenez-vous? Oui. Moi, je ne sais plus quoi dire.
Ça, oui. Ouais. Vous mettez le doigt sur un très, très bon point parce que les gens, s'ils se déplacent en région ou s'ils se déplacent à une certaine distance, même s'ils amènent tout leur stock pour 2 semaines avec eux, il va falloir mettre l'essence à un moment donné. Donc, les stations d'essence sont des lieux de transmission, vont devenir des lieux de transmission. Donc, lavage de mains et port de masque, si on les met dans ces endroits-là, on va être en mesure de réduire la transmission. J'ai eu exactement la même expérience que vous. Je portais le masque, je suis allée juste à l'intérieur pour chercher un café. Donc, je me suis lavé les mains. Il y avait des dispositifs pour se laver les mains. Je me suis lavé les mains, je portais mon masque. Je suis allée à l'intérieur. La madame m'a donné la pinte de lait pour que je mette du lait dans le café. J'ai dit, non, moi, je viens de Montréal, je ne veux pas toucher à votre lait. Mais servez-moi du lait dans mon café. Moi, je ne veux pas toucher. Je pars juste avec ma tasse, puis basta. Alors, il faut que les gens fassent attention parce que sinon, ça va se répandre. Il faut vraiment qu'on pense qu'on est potentiellement infecté et on ne veut surtout pas le transmettre aux autres. Donc, on veut réduire la chaîne de transmission. On ne veut pas toucher à rien qui ne nous appartient pas. Dans les endroits clos, ça serait souhaitable que les gens portent le masque. Puis comme vous le dites, ils ne vont pas porter le masque si ce n'est pas obligatoire.
Voilà, c'est
Et
ça.
Si on m'empêche de rentrer quelque part quand je n'ai pas de masque, ben je vais le porter, mon masque.
Voilà. Avant la pandémie, on dit que les Québécois avaient en moyenne une douzaine de contacts par jour, dont le tiers au travail. Le quart, c'était lors de loisirs et en magasinage. Pendant le confinement, évidemment, on a beaucoup réduit du tiers. On parlait de 4,5 contacts par jour. Ce qui est quand même beaucoup, finalement, puisqu'en théorie, on devait rester chez soi confiné. Si les gens suivent avec beaucoup de sérieux et de discipline les règles, ce qu'on appelle l'adhésion donc aux mesures sanitaires, on devrait rester à ce 4 contacts et demi par jour. Une faible adhésion, c'est-à-dire les gens, ils en font qu'à leur tête, ils n'écoutent pas, ils se disent que c'est correct. On aurait un retour à 8 contacts par jour et c'est là où on parle d'une sérieuse deuxième vague. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce nombre de contacts?
Oui, je suis très d'accord avec ça. Et pour réduire ce nombre de contacts, il faut garder la distance, évidemment, comme on nous le dit, laver les mains, comme on nous le dit. Mais dans les espaces clos, c'est très difficile des fois de garder ça. Et même la faisabilité est moins là. Si on demande à tout le monde qui rentre dans un espace clos, dans les magasins par exemple, de porter un masque, les gens seront plus obligés de faire la queue devant le magasin puis avoir juste je ne sais pas, un nombre beaucoup plus limité de clients dans le magasin en même temps. On peut être à un peu plus nombreux. Je ne dirais pas retour à la densité habituelle qu'on avait avant.
Ah oui, vous dites plus. Le masque avant la distance.
Moi, je pense qu'il serait... Oui, je souhaiterais que la santé publique change un peu son message. Je pense que ça serait mieux de dire portez le masque. Si c'est pas possible de porter le masque, maintenez, respectez votre distance. Au lieu que ce soit l'inverse, que si vous pouvez pas garder votre distance, portez un masque. Je pense qu'on serait plus protégé en portant le masque plus que la distance. Les deux sont bien. Si on a les deux, ben tant mieux. Mais des fois, on n'est pas capable de respecter les deux. Donc,
c'est bien la ceinture et les bretelles, mais vaut mieux la ceinture. Et la ceinture, c'est le masque pour vous.
Oui, je pense qu'on serait beaucoup plus... je pense que ça serait mieux le masque. Parce que c'est plus faisable aussi. Ça va nous permettre de mieux faire le déconfinement également.
Merci beaucoup, Dr. Nima Machouf. Toujours intéressant de vous entendre. Dr. Machouf est épidémiologiste à la clinique du quartier latin. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Dites-moi si vous craignez cette deuxième vague, si vous craignez qu'il y ait beaucoup encore de ceux qu'on a appelés, vous savez, les COVIDios, là, ceux qui n'écoutent pas, qui pensent que quand même une grosse grippe. Dites-moi si ça vous inquiète. Vous êtes inquiet aussi pour les régions, parce que des Montréalais vont aller visiter des gens en région. Vous avez vu l'exemple ce matin, je trouve qu'il est très bon, notre exemple de M. Girard, là, Armand Girard, barbier à Campbellton. Il avait rouvert. Après 5 jours, on ferme à nouveau. Ça, on voudrait pas que ça arrive à nos commerçants. On voudrait pas que ça nous arrive. On peut pas se permettre un reconfinement. Ça serait extrêmement dramatique sur le moral de tout le monde, je pense, là. 514-790-9850. Et de l'extérieur, ben, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous pose la question, est-ce que vous avez peur d'une deuxième vague? Je commence avec vous, Virginie. Vous en pensez quoi, vous?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Moi, en fait, est-ce que ça me fait peur? Je dirais moyen, oui et non, là. Moi, si je fais vraiment attention pour moi-même, ma famille et tout, les gens proches de moi, c'est juste qu'à gauche, à droite, on entend souvent « Ah, maintenant, les rassemblements, la distanciation de 2 mètres, ben pas besoin, c'est mes amis, c'est ma famille, je les connais, ils sortent pas vraiment, ils font juste l'épicerie et tout. » Fait que je me rends compte que le 2 mètres, et quand c'est des gens plus proches, ou j'imagine même pas des gens plus loin, là, mais quand c'est des gens plus proches, on dirait qu'on...
On fait moins attention.
Le 2 mètres. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus ça que je me dis, que ce soit famille ou ami, qu'on pense qu'ils ne l'aillent pas. Maintenant, on ne sait pas s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas. Fait voilà. Que moi, c'est plus ça qui me dérange dans les discussions autour de moi.
Effectivement, mais à ce moment-là, il faut citer, merci beaucoup Virginie, il faudra citer la docteure Nima Machouf qui nous dit « Partez du principe qu'on est tous contagieux ». Moi, je pense que cette phrase-là, elle explique tout. T'sais, oui, c'est vrai, Virginie a tellement raison. On n'est pas sûr, puis on peut tellement pas être sûr des contacts que les autres ont eus avant qu'ils soient en contact avec nous. Fait que le meilleur moyen de se protéger, c'est de considérer que nous-mêmes, on peut être porteur, donc que l'autre l'est aussi, et on fait attention en conséquence. On a avec nous Éric. Bonjour, Éric. La deuxième vague, est-ce que ça vous effraie?
Bonjour, Isabelle, mes amages. En fait, ça ne m'effraie pas. C'est pas si, mais quand. C'est sûr qu'on en aura une deuxième.
Oui.
Isabelle, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Exemple, je suis allé chez Canadian Tire par nécessité la semaine passée et la préposée, la personne qui me donnait là, du nettoyant, a mis 2 petites gouttes dans ma main. Mm-hmm. C'est impossible de faire un bon nettoyage efficace avec 2 petites gouttes. Puis même ceux qu'on leur donne une bonne quantité, ils se frottent juste la paume des mains, frotte, 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 puis c'est réglé. Les gens ne prennent pas ça au sérieux, soit qu'ils sont négligents ou ignorants parce qu'ils savent pas exactement comment se laver les mains. Mm. Je crois qu'on l'a entendu 2 millions de fois dans les médias comment se nettoyer les mains, mais je pense que ça rentre pas, c'est clair. Puis les gens se disent, écoutez, moi là, je suis pas contagieux. Exemple, les ex-gros fumeurs qui sont tout comme ça, ben ça m'énerve. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de masque? Ils devraient s'exiger à eux-mêmes de porter un masque pour rassurer les autres autour. Ils s'en foutent éperdument. Ils ont fumé toute leur vie, se foutaient de leur corps. Pensez-vous qu'ils ne se foutent pas de la maladie?
Ouais, merci, Éric. Merci bien. Linda travaille dans une pharmacie. Comment ça se passe, Linda?
Ben, écoutez, je m'occupe à tous les jours de dire au monde de se laver les mains. Et avec les instructions de base, est-ce que vous avez de la toux, de la fièvre? Et En général, le monde sont compréhensifs. Mmh. Mais par contre, je tombe sur des personnes qui, tranquillement, je leur dis que vous avez votre masque. Il est dans l'auto. Je l'ai enlevé quand je suis arrivée. Ben, je dis pas dans l'auto qui est pratique, c'est quand vous allez dans des endroits clos. Mmh. Oui, mais j'aime pas ça, ça m'étouffe. Oui, mais tranquillement, vous pouvez le garder quelques minutes, l'ouvrir, prendre un respire si vous êtes mal à l'aise. Et souvent, le monde ne respecte pas quand on dit justement un membre par famille. Là, j'ai vu pas plus tard que hier, 3-4 enfants avec une mère de famille. Je dis non, on peut pas laisser vos enfants avec votre mari. C'est une personne avec un enfant. Donc, je trouve que malheureusement, il y a tellement un grand écart entre ceux qui font attention et ceux qui ne font pas attention. Ouais. J'ai vu du monde rentrer avec un masque sur le bras. Fait que j'ai dit, ben pourquoi vous mettez pas votre masque? Ah, ça m'intéresse pas. Et les yeux au plafond, là, je me fais dire ça à journée longue. Pourquoi me laver les mains? Je viens de les laver. Je suis désolée, madame. C'est une consigne pour vous laver les mains en entrant. Donc, moi, je vous dirais qu'il y a un grand, grand écart encore et que faudrait que les normes soient encore plus strictes pour que tout le monde, comme disait le docteur tantôt, pour que le monde les respecte.
Ah ouais. Mais je compatis tellement, Linda. Si vous saviez, moi, je le dis parce que je suis pas la spécialiste, mais j'ai quand même... Je m'informe, je crois les épidémiologistes, les infectiologues. Je lis beaucoup sur la question. Et si vous saviez, comme je reçois des courriels où on me traite de tête de linotte, de sans jugement, de parce que je fais la promotion du port du masque. Je veux dire, c'est une question de santé publique. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Après, c'est pas au choix, là. Ça m'intéresse pas, là. C'est pas tu m'achèterais-tu un billet de mini-loto? Voyons donc. C'est ça. C'est une drôle d'attitude. Merci, Linda. Je pense que ça met bien la table pour notre prochain invité. Il est médecin épidémiologiste, justement, à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est professeur en épidémiologie à l'Université Laval à Québec. Le docteur Gaston Desserres est avec nous. Bonjour, docteur Desserres.
Bonjour, madame.
Je disais que j'aurais vraiment aimé pouvoir saluer la directrice de la santé publique de Montréal ce matin, la docteure Mylène Drouin, qui s'est laissée un peu aller à parler avec son cœur en disant que c'est bien dommage que depuis le début mars, elle fait savoir à tous les gens à l'INSPQ à Québec qu'il faudrait que la crise à Montréal soit gérée par le monde de Montréal, puis on dirait qu'on ne l'a pas entendue. Elle a quand même raison, la docteure Drouin, de dire que cette crise montréalaise n'aurait pas dû être gérée à partir de Québec. Vous en pensez quoi, docteur Desserres?
Ben, écoutez, je pense qu'il y a des choses qui sont certainement exactes dans ce que dit le docteur Drouin. En même temps, le docteur Drouin, je pense qu'elle déplorait la grande difficulté que dans l'organisation du système de santé dans la région de Montréal, où elle, qui est directrice de santé publique, elle est dans une organisation qui est un CIUSSS. Il y a plein d'autres CIUSSS dans la région de Montréal pour lesquels il y a des travailleurs de la santé publique qui sont pas les siens, entre guillemets. Et donc, il y a une dysfonction organisationnelle qui fait que la santé publique est beaucoup moins facile à gérer. La docteure Drouin, comme directrice de santé publique, a des grands pouvoirs, mais ces pouvoirs-là se bloquent effectivement à des problèmes administratifs, structurels, qui n'auraient pas de raison d'être. Ceci étant dit, donc, je pense que clairement, les gens qui sont plus proches du terrain ont une capacité de voir des choses qui sont importantes pour la gestion de l'épidémie. Et c'est vrai à Montréal, mais je veux dire, il y a eu des éclosions dans la région de Trois-Rivières. Ceux qui ont géré ça, c'est pas les gens de Québec, c'est les gens de Trois-Rivières qui l'ont réglé avec leurs équipes. Donc, c'est sûr que les équipes locales ont beaucoup d'importance dans la gestion de tout ça. Maintenant, est-ce que la crise a été gérée à partir de Québec? Il y a certainement beaucoup de décisions qui sont prises par le gouvernement qui siège à Québec. Est-ce que comment ça aurait pu être, je dirais, là, plus facile que la situation de Montréalaise soit, j'allais dire, prise en considération? Je pense que clairement, les gens qui sont à la direction de la santé publique, le docteur Arruda lui-même le dit, moi je suis un gars du 450, c'est pas parce que c'est un gars qui est détaché de ce qui se passe dans la région de Montréal ou dans les couronnes de Montréal, là. Alors je pense que à ce niveau-là, clairement, la situation de Montréal, puis puis pas juste de Montréal, de Laval aussi, entre autres.
Puis
les couronnes du nord et sud, là, je veux dire, c'est une situation qui est hors de mesure avec ce qui s'est passé dans le reste de la province. Et ça demande certainement d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir bien gérer ça.
Mais à la décharge de l'UNSPQ et de tout ce qu'on dit, puis vous avez raison, docteur Dessert, sincèrement, ça dépasse même les questions de santé, toute question politique, alors que la grande région de Montréal, vous le dites, là, c'est Montréal, Laval, c'est la Rive-Sud, c'est la moitié du Québec qui vit dans cette grande région-là, et toutes les décisions sont prises par du monde qui sont à des lieux de là, à Québec. Peut-être qu'il faudrait un certain équilibre. Je ne dis pas qu'il faut tout amener à Montréal, mais qu'il y ait un meilleur équilibre dans les décisions. Je pense que ça pourrait aider la situation. Parlons de cette deuxième vague, parce qu'hier, ce que l'INSPQ nous disait, c'est que selon les nouveaux scénarios, moins pessimistes qu'au début du mois, bonne nouvelle, c'est encourageant, même pour Montréal. Toutefois, on a beaucoup insisté sur le fait que si les gens n'écoutent pas et ne suivent pas tout le message qui est dit, redit là, ad nauseam, puis encore, il y a Charles qui m'écrit, êtes-vous capable de parler d'autre chose que de maudit COVID-19? On est pas mal tanné d'entendre ça. Et Charles, mon cher ami, attelez-vous, c'est pas pour arrêter. Là. Les gens sont tannés, docteur Dessert, mais c'est pas comme un mauvais film. Là. C'est, ça continue. Là. La preuve, c'est ce qui s'est passé à Campbellton. Vous avez peut-être écouté là, mon invité, M. Girard. Reconfiné après 5 jours parce que mauvais déconfinement, ça vous inquiète?
Ben, moi, je pense que clairement, l'adversaire qu'on a devant nous est un adversaire qui ne fera pas de cadeau. Si on baisse la garde, lui, il va en profiter pour infecter plus de personnes. Alors, je pense que là, on est tous, je dirais, là, tannés de la COVID-19. On serait tous heureux de passer à un autre chapitre, mais le virus, il est là. Il est, je dirais, là, en quantité relativement abondante quand on voit les centaines de cas qu'on continue à découvrir à chaque jour. Et donc, ce virus-là a une caractéristique en termes de contagiosité qui fait qu'il est beaucoup plus transmissible que pourrait l'être un virus comme celui de l'influenza, qui est déjà quand même pas mal transmissible. Et donc, dès que on se remet en action, on recommence à être en contact avec des personnes, si on ne met pas en place des bonnes mesures de distanciation, de protection avec des masques, etc., c'est sûr que le virus, il attend que ça pour se transmettre. Donc, à la question de la deuxième vague, je vous dirais, la deuxième vague, elle n'est pas inéluctable. En fait, ce qu'on a montré dans nos travaux hier, c'est que si on a une bonne adhésion à ces mesures-là, ça diminue considérablement la capacité du virus de se transmettre. Et on est capable, si on le respecte bien, de faire que le virus ne reprenne pas de l'expansion. Et ça, c'est donc, je vous dirais, là, actuellement, les évidences, les preuves qu'on respecte bien ces mesures-là, c'est la nature qui va nous la donner.
D'accord.
Avec une remontée des cas ou au contraire, une diminution lente du nombre de cas.
Docteur Dessert, bougez pas, on revient dans 2 minutes.
Voici Isabelle.
Bonjour Liliane, vous craignez une deuxième vague qui pourrait nous ramener à un pic qu'on a connu en avril, par exemple, et peut-être nous garder reconfinés pendant plusieurs mois?
Oui et non, mais en même temps, c'est ça, moi je voulais vous raconter des anecdotes semblables à ce que vous avez raconté avec l'épisode du dépanneur, votre fille. Moi, j'habite sur la place Valois, une place où il y a le Wi-Fi, là, le réseau public gratuit, puis il y a beaucoup de monde. Puis, en tout cas, par 2 fois, là, j'ai mentionné là à des gens de se reculer, là, puis ça les a insultés. Mais j'étais une des rares qui avait un masque.
Ah ouais, effectivement.
Même au dépanneur, là, tu sais, du coin chez nous.
Ouais, c'est difficile,
ben le commerçant il a fait des lignes, tu sais, tu rentres par une petite allée puis tu sors par l'autre, puis il y en a un qui passe carrément à côté de moi en respectant pas ces choses là. Ouais.
Effectivement, j'ai plein de témoignages de ce genre là. Merci beaucoup de votre appel et des gens qui disent même, docteur Dessert, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que on accuse, on m'accuse et on vous accuse par la bande de faire une campagne de peur. Moi, on me dit que je suis naïve d'écouter tout ça et surtout qu'au départ, je suis biaisée parce que je suis craintive. Sincèrement, non, je suis pas craintive, je suis juste réaliste. Je veux dire, je pense que... Est-ce que c'est une campagne de peur là, qu'on fait avec le masque, docteur Dessert? Comment vous voyez ça?
Ben écoutez, moi, je pense que de toute évidence, dans la grande région de Montréal, là, la COVID-19, c'est pas une imagination, c'est un fait. On a eu des dizaines de milliers de cas, on a eu des milliers d'hospitalisations, on a eu des milliers de morts. Si ça, c'est faire une campagne de peur sans fondement, je me dis, bon, ben ça pour moi, c'est des faits. C'est pas une campagne de peur. À partir de là, je pense que la situation, comment la corriger, comment empêcher que ça reprenne, ben évidemment, ça se fera pas tout seul. Le virus, si on le laisse faire, et c'est sûr que lui a démontré de façon très éloquente sa capacité à se transmettre. Et comme on n'a pas d'autres moyens que nos moyens de distanciation physique, les masques et toute la ribambelle de choses dont on parle depuis le début, c'est notre seule arme actuellement. Donc, est-ce qu'on fait des campagnes de peur? Bien, écoutez, je veux dire, c'est vrai que si j'ai 25 ans puis que j'attrape la COVID-19, ma probabilité d'en mourir est très faible. Ma probabilité d'être hospitalisé est beaucoup moins faible. La probabilité d'être malade, donc d'avoir quand même quelques jours où on va être pas bien, elle est clairement plus forte. Puis la probabilité qu'on contamine d'autres personnes, elle reste très élevée. Donc, être malade, là, c'est pas grave juste pour nous autres. C'est grave aussi pour toutes les gens qu'on fréquente, toutes les personnes qu'on fréquente et auxquelles on peut transmettre la maladie. Alors, je pense que, puis pour lesquelles, peut-être qu'ils sont pas dans une situation aussi positive que celle que la nôtre. Là.
Voilà, faut pas juste voir son petit nombril. Dites-moi, docteur Dessert. Gros week-end en perspective, il va faire beau encore, il va faire chaud, un peu moins quand même, mais ça va être quand même très, très supportable, certainement, à côté du barbecue. Est-ce que vous avez des consignes très claires pour les gens qui nous écoutent?
Ouais, écoutez, je pense que la dame, là, Virginie, avec qui vous parliez tout à l'heure, elle dit... Le talon d'Achille qu'on a, c'est qu'on a peur des étrangers, puis on n'a pas peur des gens qu'on aime. On n'a pas peur de notre famille, on n'a pas peur de nos bons amis, et pourtant, ils sont, eux aussi, possiblement infectés, et on doit être extrêmement prudent, même avec les gens qu'on veut voir, qu'on aime beaucoup, etc. Il faut
Donc, garder. Ils rentrent pas dans la maison, c'est ça que vous dites?
Ben, écoutez, je pense que les consignes actuelles, c'est il va faire beau, restez dehors. Rester dehors, ça aide d'être dehors, ça diminue les probabilités de transmission. Je pense que l'idée là, c'est de se dire comment, comme société, on est capable de fonctionner, mais en rendant la vie impossible au virus. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Et dans le fond, on est cabané pendant tout l'hiver. Profitons d'être dehors, restons dehors. Puis si on parle d'être en dedans, ben pour le moment, en tout cas, là, c'est pas ce qu'on recommande.
Merci beaucoup, docteur Dessert. On s'arrête pour les nouvelles. On continue après.